au premier siècle de notre ère, un secte appelé les Gnostiques, enseignait une sorte de mélange de doctrine chrétienne et de philosophie gréco-orientale. Une de leurs croyances voulait que la matière soit le siège du mal, ainsi que tout ce qui relevait du charnel. Leur influence s'étendit à une grande multitude de chrétiens qui finirent par penser également que le corps humain faisait partie du domaine du pernicieux et que, par conséquent, se nourrir, se marier ou donner naissance à un bébé était commettre un péché. Ils croyaient que le fait de rester vierge ou de ne pas se marier menait davantage vers la sainteté que d'épouser quelqu'un ou de porter, de partager son existence. Afin de s'opposer à un tel enseignement, Clément d'Alexandrie, qui vécut de 150 à 217, écrivit son traité sur le mariage, en utilisant nombre de passages du Nouveau Testament pour démontrer que le mariage n'était nullement moins saint que le célibat. À la même époque, d'autres écrivains religieux tentaient, quant à eux, de prouver qu'il était impossible d'atteindre un mode de vie hautement spirituel tout en étant marié. Tout ceci ne reflétait en rien les enseignements de la Bible, mais n'empêchait nullement les gens de pencher vers l'un ou l'autre courant de pensée. Certains prenaient la vie de Marie en exemple. Ils savaient par la Bible qu'elle était encore vierge lorsqu'elle avait donné naissance à Jésus. Néanmoins, ils refusaient d'admettre qu'elle avait, après cette naissance, vécu une existence normale, de par son union avec Joseph, et par conséquent, une vie moins sainte, selon leur conception. Cette croyance donna naissance à une véritable doctrine nommée la virginité perpétuelle de Marie. Bien que la Bible ne permette nullement d'étayer une semblable croyance, cette dernière n'en continuera pas moins de gagner du terrain dans les esprits et à devenir très populaire. En 649 après Jésus-Christ, le concile de Latran entérina la virginité perpétuelle de Marie et en fit une question de foi. Ce décret, édicté plus de 5 siècles après la rédaction du Nouveau Testament, ne soulevera pas les protestations auxquelles on aurait pu s'attendre. Mais, que dit la Bible à propos du mariage? Considère-t-elle le célibat comme étant supérieur, plus sain, plus spirituel que le mariage? Loin de là. La Bible dit ceci en Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Un homme aspirant à servir comme ancien, pasteur ou évêque dans une assemblée doit nécessairement être marié et avoir des enfants. En effet, 1 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 4, en fait état. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. La manière dont un homme dirige sa propre maison démontre combien il peut conduire l'église locale. 1 Timothée 3, 5. Puisque le berger de l'assemblée doit être marié, comment pourrions-nous considérer le mariage comme inférieur ou moins saint que le célibat? En l'an 325, certains dirigeants religieux réunis à Nicée avaient bien débattu du problème et posé la question de savoir si dans l'Église les dirigeants ne devraient pas adopter le célibat. Mais rien ne fut décidé et aucune règle ne fut promulguée. Cependant, il devint plus courant de voir des dirigeants célibataires. En 1074, Grégoire VII convoqua le concile de Latran et c'est alors que le célibat fut imposé. Le Seigneur, par le truchement de la première épître de Paul à Timothée, avait prophétisé en ces termes. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discours marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité, 1 Timothée 4, 1 à 4. Paul écrivait ces paroles en l'an 65 de notre ère, soit plus de 1000 ans avant le décret inique du Concile de Latran. En Matthieu 8, 14, 1 Corinthiens 9, 16 et autres passages, nous pouvons lire que les apôtres, y compris Pierre, et excepté Paul, étaient tous mariés. Jésus lui-même dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair, Matthieu 19. La Bible montre clairement que Marie était fiancée à Joseph pour devenir ensuite son épouse. Par ailleurs, l'apôtre Paul, parlant sur le mariage, déclare notamment ceci. À cause des occasions d'inconduite que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari, la femme n'a pas d'autorité sur son propre les serves, selon leur chair. Cela prouverait que Marie n'est pas demeurée vierge après la naissance de Jésus. En Matthieu 13, 54 à 56, nous pouvons précisément lire qu'après l'avoir entendu enseigner dans la synagogue de Nazareth, ses pères furent étonnés et dirent d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? En Marc chapitre 6, certains pensent que ses frères et sœurs, dont il est question, ne sont en réalité que les cousins ou les proches parents du Messie. Dans les Écritures, le terme frère se rapporte parfois à un proche parent, comme par exemple dans le cas d'Abraham et de Lot, son neveu, en Genèse 14. Cependant, le verset 14 utilise le mot neveu et sans aucun doute, le mot cousin existe dans le langage du Nouveau Testament. Dans le verset qui nous occupe, le contexte n'éclairerait-il pas la lecture de la même manière? La plupart de ceux qui étudient la Bible, un tant soit peu en profondeur, reconnaissent le principe de base qui exige qu'un verset soit toujours pris dans son sens littéral ou normal, sauf si le contexte permet de faire autrement. Les versets situés avant ou après Matthieu 13, 54 à 56, ne souffle mot d'une signification imagée ou allégorique de mon frère ou de mon sœur. Mais si ces versets décrivent tout simplement une famille typique de l'endroit, avec un père, une mère et des enfants, assez nombreux d'ailleurs, le peuple de Nazareth connaissait bien Jésus, ainsi que les autres membres de cette famille. Lorsque Jésus dit à ces gens de l'Ancien Testament qui prophétisaient sur lui, et qui éprouvaient tout naturellement une grande difficulté de le croire, il dit ceci: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Il était pour eux une occasion de chute. En Marc chapitre 6, verset 3, nous le voyons. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur lequel leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Luc chapitre 4. Jésus avait grandi parmi eux, avait travaillé comme charpentier, et ils ne pouvaient s'empêcher de considérer Jésus comme un des leurs. Ils savaient de quoi il parlait. Le passage biblique de Jean 12 était-il l'idée que les frères et les sœurs n'étaient pas de proches parents? Oh non! Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie, Madeleine. Jésus, voyant sa mère debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est-à-dire que Jésus n'aurait jamais fait cela si Marie avait eu d'autres enfants. Et les remarques suivantes s'imposent. 1. Comment quelqu'un peut-il savoir ce que Jésus aurait ou n'aurait pas fait? 2. Ce passage ne dit pas que Marie n'avait pas d'autres enfants. 3. Une femme doit-elle absolument être sans enfant avant de pouvoir devenir comme une mère pour quelqu'un? 4. Jésus prononce-t-il ces paroles pour le bien de Marie ou dans l'intérêt des gens? Il y a toujours des personnes qui aiment faire des suppositions, mais la Bible est silencieuse quant à ses motifs. Jamais des opinions et des théories ne peuvent servir de support à notre foi. Il existe un passage très intéressant, en Psaume chapitre 69 et verset 9. « Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. » Car le zèle de ta maison me dévore et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. La conjonction « car » sert de charnière, de résultante à ces deux versets. Un peu plus tard, l'apôtre Paul fait ressortir, lorsqu'il dit en Romains chapitre 15, verset 3, « Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'ont outragé sont tombés sur moi. » Jean, lui, mais la partie centrale est versée en exergue, en Jean, chapitre 2, verset 17, à propos de la purification du temple. « Le zèle de ta maison me dévore. » Reste la première partie du passage. S'applique-t-elle également à Jésus? Est-il devenu un inconnu, un étranger pour le fils de sa mère? Jean nous le dit. Ses frères lui dirent: « Pars d'ici, évangélisateur, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en ce cas s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi, parce que je vends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montrez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête. Parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. » Jean chapitre 7. Le Nouveau Testament montre à l'évidence que ses frères étaient bien des enfants de sa mère. Ses frères changèrent d'attitude vis-à-vis de lui et il les inclut parmi ses disciples. Et nous pouvons le voir en Actes chapitre 1, verset 14. Les frères du Christ sont mentionnés à 6 reprises dans le Nouveau Testament. Jamais le nom cousin ne leur est appliqué. Une fois leur nom est cité avec celui de Marie, en Matthieu chapitre 13. Et à 3 reprises, on voit qu'ils sont présents à ses côtés. La Bible nous enseigne que Marie resta vierge jusqu'après la naissance de Jésus. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas, écoutez bien, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, 24. La virginité perpétuelle de Marie ne présente absolument aucun